Chapitre 1er. Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du pont Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Il est pavé de dalles jaunâtres, usées, descellées. Le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse. À gauche se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées, laissant échapper des souffles froids de caveaux. À droite, sur toute la longueur du passage, s'étend une muraille contre laquelle les boutiquiers d'en face ont plaqué d'étroites armoires. Des objets sans nom, des marchandises oubliées là depuis 20 ans, s'y étalent le long de minces planches peintes d'une horrible couleur brune. Une marchande de bijoux faux s'est établie dans une des armoires. Elle y vend des bagues de 15 sous. Il y a quelques années, en face de cette marchande, se trouvait une boutique dont les boiseries d'un verre bouteille suaient l'humidité par toutes leurs fentes. L'enseigne, faite d'une planche étroite et longue, portait en lettres noires le mot « Mercerie ». Et sur une des vitres de la porte était écrit un nom de femme, « Thérèse Raquin », en caractère rouge. À droite et à gauche s'enfonçaient des vitrines profondes tapissées de papier bleu. D'un côté, il y avait un peu de lingerie. De l'autre s'étageaient de gros pelotons de laine verte, des boutons noirs cousus sur des cartes blanches, des faisceaux d'aiguilles à tricoter, des modèles de tapisserie, des bobines de ruban, un entassement d'objets ternes et fanés qui dormaient sans doute en cet endroit depuis 5 ou 6 ans. Toutes les teintes avaient tourné au gris sale dans cette armoire que la poussière et l'humidité pourrissaient. Vers midi, en été, on distinguait un profil pâle et grave de jeune femme. Ce profil sortait vaguement des ténèbres qui régnaient dans la boutique. On ne voyait pas le corps qui se perdait dans l'ombre. Le profil seul apparaissait, d'une blancheur mate, troué d'un œil noir largement ouvert et comme écrasé sous une épaisse chevelure sombre. Il était là, pendant des heures, immobile et paisible, entre deux bonnets sur lesquels les tringles humides avaient laissé des bandes de rouille. Le soir, lorsque la lampe était allumée, on voyait l'intérieur de la boutique. À l'un des bouts se trouvait un petit comptoir, à l'autre bout, un escalier en forme de vis menait aux chambres du premier étage. Contre les murs étaient plaquées des vitrines, des armoires, des rangées de cartons verts. 4 chaises et une table complétaient le mobilier. La pièce paraissait nue, glaciale. D'ordinaire, il y avait 2 femmes assises derrière le comptoir, la jeune femme au profil grave et une vieille dame qui souriait en sommeillant. Cette dernière avait environ 60 ans. Son visage gras et placide blanchissait sous les clartés de la lampe. Un gros chat tigré, accroupi sur un angle du comptoir, la regardait dormir. Plus bas, assis sur une chaise, un homme d'une 30aine d'années lisait ou causait à demi-voix avec la jeune femme. Il était petit, chétif, d'allure languissante. Les cheveux d'un blond fade, la barbe rare, le visage couvert de taches de rousseur, il ressemblait à un enfant malade et gâté. Un peu avant 10 heures, la vieille dame se réveillait. On fermait la boutique et toute la famille montait se coucher. Le chat tigré suivait ses maîtres en ronronnant et en se frottant la tête contre chaque barreau de la rampe. En haut, le logement se composait de 3 pièces. L'escalier donnait dans une salle à manger qui servait en même temps de salon. Au fond, derrière une cloison vitrée, se trouvait une cuisine noire. De chaque côté de la salle à manger, il y avait une chambre à coucher. La vieille dame, après avoir embrassé son fils et sa belle-fille, se retirait chez elle. Le chat s'endormait sur une chaise de la cuisine. Les époux entraient dans leur chambre. Cette chambre avait une seconde porte donnant sur un escalier qui débouchait dans le passage par une allée obscure et étroite. Le mari, qui tremblait toujours de fièvre, se mettait au lit. Pendant ce temps, la jeune femme ouvrait la croisée pour fermer les persiennes. Elle restait là quelques minutes, devant la grande muraille noire, crépie grossièrement, qui monte et s'étend au-dessus de la galerie. Elle promenait sur cette muraille un regard vague et, muette, elle venait se coucher à son tour, dans une indifférence dédaigneuse.